آمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معاشر الإخوة، كنا توقفنا بالأمس نواصل اليوم وقلنا الدعاء ليكون مستجاب، ليكون مستجاب عند الله تبارك وتعالى لها آداب ولها شروط وله ضوابط، أو له آداب وله شروط وله ضوابط، جاء بيانها في الكتاب والسنة، وأيضا له موانع إذا وجدت لم يقبل الدعاء. ولهذا يجب على الداعي أن يتخلص من الموانع حتى يكون دعاؤه مقبولا مستجابا. Donc nous nous étions arrêtés hier dans l'explication, dans le fait de dire que l'invocation, pour qu'elle soit exaucée et pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, elle comporte des conditions. Et elle comporte des comportements à adopter lors de l'invocation. Celui qui invoque sans les conditions de l'invocation, son invocation ne sera jamais exaucée. Celui qui invoque en adoptant les comportements de l'invocation et ses conditions se verra exaucé du fadlillah et jalla wa ala. Également, l'invocation contient des mawani', des obstacles, des choses qui vont venir empêcher ton invocation de l'exaucement. Il y a des choses que si la personne fait, son invocation ne sera pas acceptée. Donc il est obligatoire pour le musulman de connaître les conditions de l'invocation et de connaître les comportements à avoir lors de l'invocation et de connaître les choses, les obstacles, afin de s'en préserver et afin que lorsque le musulman invoque son Seigneur, il trouve une invocation exaucée et acceptée auprès d'Allah. Donc la chose la plus importante que la personne doit prendre conscience, c'est de connaître les conditions, les conditions de l'invocation. Et ces conditions ont été citées dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salam. Et la plupart de ces conditions ont été citées dans la pratique. La plupart de ces conditions sont tirées de Surat al-Fatiha, comme nous allons le voir aujourd'hui, bi fadlillahi jalla jalala. وقد اشتملت سورة الفاتحة على جملة كبيرة من شروط الدعاء وآدابه التي إذا تحل بها المؤمن واتصف بها أجيب دعاؤه وحقق رجاؤه وأعطي سؤله. سورة الفاتحة كما نبغي englobe une grande partie de ses conditions et de ses comportement à avoir lors de l'invocation. Donc le musulman se doit de parer, se doit de s'orner, se doit de se parer, de s'embellir de ses comportements lorsqu'il invoque son Seigneur, afin qu'Allah Azza wa Jal répondra à son invocation et qu'il concrétisera son souhait et son espoir, et il lui donnera ce qu'il le veut, il lui donnera sa demande. Al-awwal, wa huwa al-aham. Ma ahamu shurut inda du'a. Yastajib. استقبال القبلة آداب وليس شرط. الوضوء آداب وليس شرط. الشرط لا بد منه. إن تركت صلى الله عليه وسلم. آداب. شوف الإخلاص أحسن الله لك. قبل الوضوء، قبل اتجاه القبلة، قبل صلاة على قال صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص، الإخلاص، ولا بد، لا بد من الإخلاص. الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو أهم شرط، وقد جاء ذكره في سورة الفاتحة. أين جاء ذكر الإخلاص في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يقول وقد جاء ذكره مقدما بين يدي الدعاء في سورة الفاتحة، لأن في سورة الفاتحة تقول وتدعو اهدنا الصراط المستقيم، لكن ماذا تقول قبل هذه الآية؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالإخلاص جاء مقدما بين يدي الدعاء، لأن الشرط يأتي قبل الفعل. مثلا من شروط الصلاة الوضوء، فلا تصلي ثم تتوضأ، لا، تتوضأ ثم تصلي، فهناك تعبد الله وتخص عبادك به سبحانه وتعالى، لك الإخلاص لله تبارك وتعالى للمعبود، ثم تدعوه. لهذا جاء مقدما بين يدي الدعاء في سورة الفاتحة بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وجاء قبل ذلك الإخلاص إياك نعبد، أي نخصك بالله وحدك بالعبادة، تدعو الله تبارك وتعالى، ندعوك وحدك ونعبدك وحدك، وهكذا. Donc la première des conditions c'est la sincérité. C'est la sincérité. La première, et c'est la condition la plus importante de l'invocation. Et comme on l'avait vu dans les cours auparavant, c'est que c'était la condition la plus importante de toutes les adorations. Si tu adores Allah Azza wa Jal, mais tu n'es pas sincère dans ton adoration sera rejetée, même si elle est faite de là, même si tu as fait des bonnes choses dedans, si tu as dépensé énormément, si tu as prié longuement, si tu as jeûné longtemps, si tu as éprouvé des difficultés dans ton adoration, mais si tu ne l'as pas fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, cela sera rejeté. Donc l'intention, la sincérité dans l'intention, c'est la condition la plus importante pour qu'Allah Azza wa Jal accepte ton invocation. Et on a expliqué que à partir de Surat al-Fatiha, on peut en déduire cela. Comment ? Dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce que tu demandes à Allah Azza wa Jal ? Tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin ». Mais qu'est-ce que tu dis juste avant ?« Iyaka na'bud » « C'est toi seul que nous adorons ». Et on avait expliqué que lorsque tu dis « C'est toi seul que nous adorons », c'est-à-dire que seules nos adorations sont vouées pour toi. Nous invoquons que toi, nous jeûnons que pour toi, nous passons notre confiance en toi seulement. Donc lorsque tu dis « Guide-nous vers le droit chemin », qu'est-ce que tu dis avant ? Nous adorons que toi. C'est la plus grande, ta sincérité envers Allah. tu invoques que Allah et ensuite tu demandes ce que tu as besoin. C'est pour cela que lorsque tu invoques, tu te dois d'être sincère et d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala seul. فمن شروط قبول الدعاء أن يكون خالصا لله أما إذا صرف لغير الله أو جعل مع الله شريك فيه فإنه يكون باطلا مردودا ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ومن أضل من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو يعني هذه الهائلة هذه الأصنام وهكذا وهم عن دعائهم إيش؟ غافلون وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكانوا بعبادتهم كافرين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويقول الله تبارك وتعالى الملك يعني له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير ما يملكون من شيء ما يملكون عن قشر التمرة قشر نواة التمر لا يملكون شيئا لا يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم أو لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ولو سمعوا لكن لم يسمعوا ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Donc parmi les conditions les plus importantes de l'invocation, c'est que ton invocation soit faite sincèrement pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais si la personne invoque autre qu'Allah azza wa jalla et elle donne un associé à Allah azza wa jalla dans son invocation, qu'il sache que son invocation sera rejetée et elle sera nulle. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset. Et qui est plus égaré? Quelle personne est plus égarée que celui qui invoque autre qu'Allah? Que celui qui invoque autre qu'Allah? Qui invoque celui qui ne saura lui répondre jusqu'à Yawm al-Qiyamah? Il invoque une statue, il invoque un mort, il invoque une étoile, il invoque le soleil, il invoque un pieu, il invoque peu importe qui il invoque. La personne ou la chose que tu as invoquée, il invoque un arbre, il invoque un animal. Peu importe qui ou quoi tu as invoqué, elle ne saura te répondre. Elle ne peut te répondre jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Et celles-ci sont indifférentes à leurs invocations. Ce que tu invoques en dehors d'Allah Azza wa Jalla, elles ne comprennent même pas ce que tu leur dis. Elles sont indifférentes complètement à leurs invocations. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit, quand les gens seront rassemblés, elles seront leurs ennemis. Quand les gens seront rassemblés, elles seront leurs ennemis et elles nieront leur adoration. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, si vous les invoquez, ils n'entendront pas leurs invocations. Si vous les invoquez, ils n'entendront pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Même s'ils t'entendraient, alors qu'ils ne t'entendent pas. Mais même s'ils t'entendraient, ils ne sauront te répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont nier vos associations, votre association. Et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement connaisseur. Et juste avant, j'ai oublié de traduire le premier verset, juste avant celui-là, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, à lui appartient la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah Azza wa Jalla ne possèdent même pas ou ne sont pas maîtres de leur. Yani, ils ne sont pas maîtres de eux et ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau d'une date. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jalla, la plus petite des choses, la pellicule d'un noyau d'une date, yani la peau qui est sur la date, la chose que limite on la voit même pas, ils ne la possèdent même pas. Ils ne possèdent même pas la peau, vous voyez le noyau d'une date, il y a une peau très légère là au-dessus, même ça, ils ne le possèdent même pas. Comment tu peux? Et juste avant, Allah Azza wa Jalla dit, la humul, à lui appartient la royauté. Comment tu peux délaisser celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, celui à qui tout appartient, tu le délaisses pour demander à quelqu'un qui n'appartient à Yannick, qui n'est même pas maître de la pellicule du noyau d'une dame. Même cela, il ne l'a pas. Tu délaisses le créateur des cieux et de l'univers, des cieux de la terre et de l'univers, tu délaisses le roi des rois pour quelque chose ou quelqu'un qui ne possède même pas la pellicule du noyau de la date. Subhanallah. Regardez la réflexion dans laquelle Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous demande de méditer. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya Fatimatu bint Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, سليني ما شئت من مالي سليني من شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il dit, ô Fatima, c'était qui Fatima? Sa fille. Il l'appelle et lui dit, ô Fatima, fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne mes biens, demande-moi tout ce que tu veux. Car auprès d'Allah, je ne peux rien pour toi. Car auprès d'Allah, je ne peux rien pour toi. Qui s'adresse à qui? Le meilleur des hommes s'adresse à l'une des quatre meilleures femmes de l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes que la terre n'a jamais connu. Fatima, radiyallahu anha, fait partie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, les quatre femmes les plus importantes de l'univers, du monde, sont quatre. Asiya, Maryam, Khadija, wa Fatima. Khadija ou Fatima. Asiya, c'était la femme de qui Asiya? La femme du Pharaon. Maryam, de la mère de Isa, la fille de Imran. Khadija, radiyallahu anha, la première femme du prophète alayhi sallam, et Fatima. Le prophète alayhi sallam s'adresse à Fatima. Regardez cette locution, ce dialogue. Réfléchis, qui parle à qui s'adresse à qui? Et lui dit quoi? Ya Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salini min shi'ti min mali, ou salini ma shi'ti min mali, demande-moi ce que tu veux en ce qui concerne mes biens et mon argent. La urni anki min Allah shay'a, car je ne te suis d'aucune utilité auprès d'Allah. Je ne te suis d'aucune utilité auprès d'Allah. وإذا قال قائل أحب أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجواب أن يقال له كل مسلم يحب أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يطلب ذلك منه عليه الصلاة والسلام لا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام وتسهل وتسأل له الشفاعة لا ادعو الله واسأل له الشفاعة. لهذا نفهم النصوص. فلا تقول أنا أحب أن يشفع لي الرسول صلى الله عليه وسلم فأدعو له وأدعو به. لا. ماذا نجيب؟ نقول كل مسلم يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلب منه عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلبه من الله عز وجل. Une personne va dire, va penser, mais moi, j'aime et je voudrais bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour moi. Et qu'est-ce qu'on répond à cette personne? On dit que le musulman veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour lui. Mais est-ce que le fait que tu veux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi, tu dois lui demander à lui directement? Non. Mais tu dois le demander à Allah. Tu dois le demander à Allah. Demande à Allah Azza wa Jal que tu puisses faire partie des gens qui seront, qui bénéficieront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, comme on l'avait vu précédemment. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut faire partie de ceux qui vivront de son bassin. On veut faire partie de ceux qu'il dira, Ya Allah, Ummati, Ummati, ma communauté, de ceux qui bénéficieront de son intercession, qui pourront rentrer au paradis. Mais ça, on ne doit pas le demander à, au prophète, alayhi salam. Regardez ce qu'il a dit à sa propre fille, Fatima. Si le prophète, alayhi salam, aurait une utilité vis-à-vis d'Allah par rapport à, aux créatures d'Allah, il aurait dit ça à sa propre fille. Il aurait dit ça à sa propre fille. Il aurait dit après ma mort, invoque-moi, je t'aiderai. Non. La urni anki min Allah shay'a. Shay'a. Auprès d'Allah, je ne te suis d'aucune utilité. Et écoutez le hadith d'Abu Huraira. Ce hadith, dans ce sujet, il vient fermer la porte à toute chose. Et il vient nous faire comprendre toute chose. ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ما أعظم السؤال من أسعد الناس في رواية من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ماذا قال له رسول صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا السؤال تعجب رسول صلى الله عليه وسلم وقال له لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس يعني أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من دعاني لا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما أعظم هذا الحديث Et pour bien comprendre que seul Allah tabaraka wa ta'ala mérite d'être adoré et mérite d'être invoqué et que même le prophète alayhi salatu wa salam ne doit pas être invoqué. Si on aurait dû invoquer autre qu'Allah, on aurait invoqué le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit à sa propre fille? La urni anki min Allah shay'a. Auprès d'Allah, je ne me suis d'aucune utilité. Et regardez ce que Abu Huraira radiallahu anhu, il dit au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au messager d'Allah, qui sera la personne la plus heureuse, ou qui sera, dans une version, qui sera la personne le plus endroit, qui aura le plus droit à ton intercession au jour de la résurrection. Qui aura le plus droit de bénéficier de ton intercession et Yawm al-Qiyamah. Et cette question a étonné le prophète. Et regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit à Abu Huraira. Il lui a dit le prophète, ô Abu Huraira, j'étais sûr qu'il n'y aurait personne qui m'aurait posé cette question à part toi. J'étais sûr qu'il n'y aurait personne. Personne. Et Abu Huraira, c'était qui? Il habitait où, Abu Huraira? Lors de l'avènement du prophète Hassan. Qui sait où habitait Abu Huraira? Abu Huraira, il faisait partie de Ahl al-Sufra. Une catégorie de musulmans qui n'avaient ni maison ni affaire. Ils habitaient dans la mosquée du prophète Hassan. Abu Huraira radiallahu anhu, quelle est sa spécificité dans la sunna lorsqu'on étudie les hadiths? Quelle est la spécificité d'Abu Huraira? Ahsanallahu ilayka, ahsanallahu ilayka, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète alayhi salam, le plus, celui qui a rapporté le plus de hadiths, c'est Abu Huraira radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète alayhi sallam? Ya Abu Huraira, j'étais certain que personne ne m'aurait posé cette question à part toi, car j'ai vu ton intérêt et ton goût que tu as pour le hadith. Regardez l'intérêt qu'Abu Huraira avait pour la parole du prophète alayhi sallam. Et ensuite, le prophète alayhi sallam lui dit: les gens les plus heureux au jour de la résurrection pour de mon intercession, ou les gens qui auront le plus droit de bénéficier mon intercession, c'est qui? Est-ce qu'il a dit c'est ceux qui m'ont invoqué après ma mort? Jamais. Hajawakallah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce sont ceux qui disent La ilaha illallah khalisan min qalbi. Ce sont ceux qui disent La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, sauf Allah, sincèrement de leur cœur. Sincèrement de leur cœur, avec un cœur sincère. Donc regardez, celui qui veut bénéficier de l'intercession du prophète alayhi salam salam yawm al-qiyama et qui veut rentrer au paradis yawm al-qiyama, qu'il invoque qui? Allah ou son prophète? Qu'il invoque Allah azza wa jal. Et qu'il demande à Allah azza wa jal de bénéficier de l'intercession de son prophète, mais qu'il ne demande pas directement au prophète. Et ça, c'est un égarement évident. Et certaines personnes vont penser que ce sujet, mais comment ça peut venir à l'esprit que quelqu'un invoque le prophète? Eh bien, sachez que ce sujet touche beaucoup de musulmans dans la communauté musulmane, que dans leur dua, Ya Nabi, Ya Rasoul, Ya Rasoul, Ya Nabi, au lieu de dire Ya Allah, ils invoquent au Rasoul. Et celui qui va à Médine, il voit cela. Les gens, ils invoquent au lieu, quand je dis les gens, une catégorie de gens qui sont tombés dans cet égarement, et tu les vois avec tes propres yeux, ils invoquent, au lieu d'invoquer en direction de la Qibla, ils invoquent en direction de, pardon mon ami, en direction de la tombe du prophète. Mais ces gens-là ne comprennent pas que le prophète a dit, La urni anki min Allahi shay'a. Je ne te suis d'aucune utilité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal-anbiya'u, هذه فائدة مهمة. والأنبياء وسطاء بين الله وبين خلقه في ماذا؟ في بيان دينه. الأنبياء وسطاء بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى في دينه. لكن وليس وسطاء بين الله وبين خلقه في الدعاء والعبادة. والناظر في آية القرآن يجد آيات كثيرة تبدأ بقوله يسألك. مثلا في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الأهلة، يسألونك مثلا في سورة البقرة يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن السعة، لكن فقط تتدبر عن سورة البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيل، يسألونك عن الأهلة. يقول الله تبارك وتعالى يأتي الجواب عليها بقوله قل. يسألونك عن المحيط قل هي أذى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم. يسألونك عن الأهلة قل 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 هي مواقيت قل قل قل. تمام. فهذا دليل أن الأنبياء وسطاء بين الله وبين خلقه في الدين. لكن انظروا، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام واسطة في البلاغ، لكن في مقام الدعاء. ونتدبر كذلك فقط في سورة البقرة، في مقام الدعاء ارتفعت الواسطة أو الوساطة، فجاء الجواب من الله مباشرة. وإذا سألك عني هل في قول، وإذا سألك عني فإني قريب، بدون وصفة، ارتفعت الوصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واسط بين الله وبين خلقه في البلاء وفي الدين وفي البيان، لكن ليس بواسطة بين الله وبين خلقه في الدعاء والعبادة. وهذا الدليل واضح وقطعي. فجاء الجواب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Une chose très importante à comprendre et à méditer, c'est que les prophètes, sont un lien entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures. Les prophètes sont un lien entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures dans la transmission du message et dans la religion. Dans la transmission du message et dans la religion. Et celui qui lit le Coran, il va méditer, il va regarder quoi? Il va trouver plusieurs versets où qu'Allah Azza wa Jalla dit Yas'alounak. Le verset commence par Yas'alounak et il t'interroge au sujet de plusieurs versets. Nous, on s'arrête rien que dans Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla, à plusieurs endroits, il dit Yas'alounak. Il t'interroge au sujet des menstrues. Il t'interroge au sujet des jeux de hasard et du vin. Il t'interroge au sujet des nouvelles lunes. C'est quoi la réponse? Dis, et il t'interroge au sujet, un exemple des nouvelles lunes, dis, elles servent à cela, à cela. Et il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard, dis, dedans il y a cela, il y a cela. Et il t'interroge au sujet des menstrues, dis, il y a un mat, etc. Cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un lien entre Allah azza wa jalla et les créatures d'Allah dans la transmission du message. On est bien d'accord. Mais dans la même sourate, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de l'invocation, ce lien tombe. Ce lien tombe. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit wa idha sa'alaka anni wa idha sa'alaka ibadi anni, et non, dans ce verset, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, est-ce qu'il dit et lorsque tes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Et je réponds à celui qui m'appelle lorsqu'il m'invoque. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Vous avez compris ou pas? Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que le prophète Al-Islam est un lien entre Allah Azza wa Jalla et les créatures d'Allah dans la transmission du message, dans la transmission de la religion, dans la recherche de la vérité. Il expose la vérité, il expose la religion. Mais dans l'adoration, tu t'adresses directement à Allah Azza wa Jalla. Tu t'adresses directement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. أما الاعتقاد أن الدعاء يكون أنفع وأرجى عند قبر فلان أو بإحضار سورة الشيخ والنظر فيها ونحو هذا من التعلق بالأشياء فإن هذا كله من الضلال المبين. Et te dire de ceux qui osent proclamer le fait que telle invocation est plus propice d'être exaucée lorsqu'elle est faite devant la tombe d'un tel, ou telle invocation doit être faite. Beaucoup de musulmans s'égarent de cette manière. Lorsqu'il invoque, il sort la photo de son chien et il regarde. Lorsqu'il invoque, et ça dans nos pays d'origine, on trouve cela. Ils sont devant, dans leur mosquée, avec leur chir, et ils partent en voyage, ils disent à leur chir, mais comment je vais faire si tu n'es plus là? Je vais demander à qui? Qu'est-ce qu'il lui dit? Prends cette photo. Et lorsque tu dois demander quelque chose, tu as besoin de quelque chose, regarde bien cette photo, médite et demande. Subhanallah al-Azim. Quel égarement évident, quel égarement manifeste. أين هؤلاء؟ بقوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين هؤلاء؟ أجيب دعوة الداع أو أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Où sont ces gens-là par rapport au verset, la parole d'Allah عز وجل dans le sens du verset et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche et je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Où sont ces gens-là par rapport à cela? Où sont ces gens-là par rapport à Iyaka Na'bu ou Iyaka Nasta'in? Où sont ces gens-là par rapport à Ihdina Sirat al-Mustaqim wa hakada? Donc la première des conditions, al-ikhlas, la sincérité. La première des conditions pour qu'Allah Azza wa Jalla accepte tes invocations, c'est la sincérité envers lui. Al-thani, al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. وهذا أيضا منصوص عليه في سورة الفاتحة. أين نأخذ ونستنبط المتابعة في سورة الفاتحة في أي آية؟ المتابعة إياك نعبد وإياك نستعين الإخلاص. لكن المتابعة قبل اهدنا الصراط المستقيم شرحنا هذا وبينا هذا أن صراط المستقيم صراط النبي عليه الصلاة والسلام. تركنا في أوله وآخره الجنة، هذا هو صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. La deuxième des conditions qui est le suivi formel et conforme du prophète عليه الصلاة والسلام. Yani, ce sont les deux premières conditions, tu retiens, ce sont les deux conditions de l'acceptation de toute œuvre. Donc celui qui invoque doit invoquer comme le prophète alayhi salam a invoqué. Et cette deuxième condition est tirée aussi dans son Al-Fatiha. À quel endroit? Guide-nous vers le droit chemin. Quel est le droit chemin que tu demandes de te guider? C'est le chemin du prophète alayhi salam dans lequel il nous a laissé à son début et la fin est au paradis. أي الطريق القويم والمسلك الرشيد الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc le droit chemin, c'est le chemin droit et la voie droite et la voie bien guidée sur laquelle était le prophète عليه الصلاة والسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه وأن صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجزين. C'est pour cela qu'il est important pour le musulman d'invoquer comme le prophète a invoqué et d'invoquer avec les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoquées, avec les invocations légiférées qui sont venues dans le Coran et qui sont venues dans la Sunnah. Dans le Coran, il y a des invocations, invoque par les invocations du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, invoque avec parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a aucun doute sur le fait que ces invocations-là sont meilleures et sont plus pures, et que cela fait partie du droit chemin, du chemin de ceux qu'Allah Azzawajal a comblé de ses faveurs parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quel bon compagnon que cela. Donc, le musulman doit prendre conscience de l'importance et de l'attachement sur le fait d'apprendre les invocations que le prophète alayhissalam disait. Lorsque tu rentres à la mosquée, tu dis les invocations que le prophète alayhissalam disait. Et il n'y a pas de mal à la lire. Alhamdulillah, les savants font un travail, il y a des livres comme Sahih al-Afkar, un livre qui est partout, qui se vend partout, on le trouve partout. Il s'appelle Sahih al-Afkar, un petit livre marron de Cheikh al-Albani, rahimahullah. Tu le mets dans ta poche. C'est pas tout le monde qui connaît toutes les invocations. Tu le mets dans ta poche, tu rentres à la mosquée, tu la lis. C'est dur. Tu sors de la mosquée, tu la lis. Tu termines la prière, tu les lis. Tu rentres chez toi, tu lis. Tu sors de chez toi, tu lis. Ah, c'est un moment, voilà, ce livre de poche. Il ne te reste plus qu'à le lire maintenant. Tu vas dormir, tu le lis. Tu te réveilles, tu le lis. Garde-le avec moi. Ça doit être un compagnon, ce livre. Vis avec ce livre. Vis avec l'invocation d'Allah, Azza wa Jalla. Regarde le lien que tu auras. Le lien que tu auras avec ton Seigneur. Et à force de le lire, à la fin, tu les connaîtras. Donc il est important pour le musulman de ne pas délaisser, de ne pas délaisser ses invocations. Avant de manger, tu fais du'a. Après manger, du'a. Quand tu jeûnes, au moment de rompre le jeûne, au moment de manger, tu as une dette, au moment de payer ta dette, tu ne peux pas la payer, tu as un du'a aussi. Tu te maries, tu as un du'a. Tu... Subhanallah, il y a des du'a. Il y a des invocations à chaque instant et à chaque moment. Donc le musulman ne doit pas être insouciant quant à cela, mais il se doit de s'accrocher aux invocations, car l'invocation change ta vie. L'invocation change ta vie. L'invocation change ta vie. Tu sors de chez toi, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal t'envoie deux anges qui te protègent jusqu'à quand tu rentres. Ça change pas ta journée, ça. Et Shaitan, il dit, Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Il peut rien comprendre. Tu rentres chez toi, tu dis Bismillah. C'est dur de dire Bismillah. Tu rentres chez toi, tu dis Assalamu alaikum. Il y a des hadiths qui prouvent que celui qui rentre chez lui et qui dit Assalamu alaikum, même s'il meurt chez lui, il meurt en martyr. Il meurt et il meurt et il gagnera le paradis même s'il meurt chez lui. Allah, c'est dur. Ce qui est dur, c'est pas ça. Ce qui est dur, c'est de s'accrocher. C'est là où on voit la patience dans l'obéissance. Car la patience, ça se divise en trois. La patience dans les désobéissances, dans les obéissances et dans les malheurs. Tu te dois de patienter dans les obéissances. Tu te dois d'être constant dans ton adoration. Comme tu te dois de patienter dans les désobéissances. Des fois, tu arrives à t'écarter des péchés, mais des fois, tu tombes de l'avant. Patience sur le fait de t'écarter tout le temps de ces péchés. Et tu te dois de patienter dans les malheurs, etc. ومن أعجب العجب إن بعض الأشياخ كتبوا في الذكر أذكارا مخترعة سموا بعضها الصراط القويم الصراط القويم فسبحان الله العظيم الصراط القويم هو الذي كان عليه الرسول يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبع السبل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا حقيق بأمثال هذه الكتب أن تسمى السبيل المعوج ولا تسمى السبيل الطويل لأن الصراط القويم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم Et ce qui, les choses les plus étonnantes dans cet égarement, le fait que ces imams ou ces gourous, ils écrivent des invocations inventées, des hadiths inventés, et ils appellent, pour certains, ils ont appelé ces livres-là le droit chemin, le chemin juste. Le droit chemin, c'est le chemin dans lequel le prophète alayhi wa sallam est. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, et voilà mon chemin, dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc ces livres-là ne devraient pas être appelés les droits chemins ou les chemins justes, mais devraient être appelés les chemins cabossés et les chemins tordus. Car ce sont des chemins qui te ramènent vers l'égarement, et ce ne sont pas des chemins qui te ramènent au paradis. Et retenez toute votre vie que tous les chemins qui mènent au paradis sont fermés, sauf le chemin du prophète alayhi salatu wa sallam. Et on l'a expliqué, il y a plusieurs chemins, et ils sont tous fermés vers le paradis, sauf un qui est la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. واستمعوا هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى وقيل يا رسول الله ومن يابى من يابى يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écoutez ce hadith. Ce hadith, qu'à chaque fois je le lis, il me donne des frissons. Le prophète alayhi salam, il dit, et ce hadith prend toute ta vie, tu respires, toute ta vie pense à cela. Le prophète alayhi sallam dit, toute ma communauté rentrera au paradis. Toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Et là, les compagnons étonnés. On dit, mais au messager d'Allah, sallam, comment quelqu'un peut refuser le paradis? Comment quelqu'un peut refuser cela? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi sallam? Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit rentrera au paradis. Ou amène à Sali, celui qui me désobéit, faqad aba. Automatiquement, on va refuser de rentrer au paradis. Celui qui me désobéit aura refusé. Celui qui désobéit au prophète, alayhi salam, qui invoque d'une manière dont le prophète sallam n'a pas invoqué, qu'il prie d'une manière dont le prophète sallam n'a pas prié, qu'il fasse le hajj d'une manière dont le prophète sallam n'a pas fait le hajj, qui adore Allah d'une manière dont le prophète n'a pas adoré Allah de cette manière, aura automatiquement refusé de rentrer au paradis. Aura automatiquement refusé de rentrer au paradis. Al-thalith, al-shartu, al-thalith, huwa al-ilhahu ala Allah tabaraka wa ta'ala. Wa alla yal'as al-insan wa yanqati' ويقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. دعوت ودعوت 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 فلم يستجب لي بل يكون ملحا دائما الالتجاء الى مولاه تبارك وتعالى. La troisième des conditions, c'est الالحاح على الله سبحانه وتعالى. Le fait que tu es constant dans ton adoration et que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes et que tu demandes sans cesse et que tu ne désespères jamais de la réponse, en la réponse. Car celui qui désespère et qui abandonne et qui dit j'ai demandé et on ne m'a pas répondu, comme on l'a vu hier, qu'il sache que son invocation ne sera pas exaucée. Mais le musulman qui invoque se doit d'être abondant, de multiplier l'invocation, de multiplier la demande, de multiplier et de ne jamais désespérer en cela. Il se doit toujours de se tourner vers son maître, subhanahu wa ta'ala. Wa suratul Fatiha, دلت على أهمية الإلحاح في الدعاء. من جهة، من أي جهة دلت هذه السورة المباركة المليئة بالفوائد العظيمة؟ أين أو من أي جهة تدل على الإلحاح؟ À quel moment surat al-Fatiha elle va nous indiquer cela? Que le musulman se doit sans cesse de demander sans relâche. À quel moment?
Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in.
Iyyaka nasta'in, ça va nous indiquer le, que tu demandes seul à Allah. Mais non, qu'est-ce qu'il nous indique? Que tu dois demander tout le temps, Souvenez-vous du premier cours qu'on a fait, premier ou deuxième cours. Parmi les noms de Surat al-Fatiha, comment elle s'appelait? Jazakallahu khayra. As-sab'u al-mathani. Surat al-Fatiha. Tu la répètes 17 fois par jour au minimum. Et tous les jours, tout le temps, ihdina sirat al-mustaqim, tout le temps, ihdina sirat al-mustaqim. C'est pas simplement une fois. Ihdina sirat al-mustaqim au minimum 17 fois par jour. Fois 7 dans la semaine, fois 30 dans le mois, fois 365. Regarde toute ta vie, comment, combien de fois tu auras demandé ihdina sirat al-mustaqim. Subhanallah. Donc surat al-Fatiha, elle nous indique cela. Elle nous indique que la personne ne doit jamais désespérer en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et qu'elle doit demander, lorsque tu invoques Allah, lorsque tu demandes quelque chose à Allah Azza wa Jal, demande-lui sans cesse, ne désespère pas. Demande. C'est quoi la preuve? C'est que surat al-Fatiha, c'est des 7 répétés. Minimum 17 fois par jour dans ta semaine, tu dis quoi? Ihdina salat al-mustaqim. 17 fois par jour dans la journée, tu dis ihdina salat al-mustaqim. Guide-nous vers ton droit chemin. Et ici, le Cheikh Hafidhahullah, il dit « وَقُلْ فَائِدَةً مُهِمَّةً مِنْ خِلَالِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. هل يكفي أن يقول مرة أو مرتين اهدنا صراط المستقيم ويقف ويتوقف؟ بل لا. فيقول تلح في الدعاء حياتك كلها اهدنا صراط المستقيم. ولهذا جاء علي، إذا جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام، وقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، ماذا قال له؟ قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Et c'est pour cela que les savants, et notamment le Cheikh Hafidhahullah dans les audios dont il explique ce livre, il dit, et prends une faïda, un mérite, une leçon de Surat al-Fatiha. Une personne qui veut qu'Allah Azza wa Jalla le guide vers le droit chemin. Est-ce que cela suffit qu'il le demande une fois et il attend? Non, cela ne suffit pas. Mais au contraire, tu te dois de demander sans cesse, de demander sans cesse la guider. C'est pour cela que quand Ali radiallahu anhu, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on avait déjà cité le hadith auparavant, et il a dit, ô messager d'Allah, indique-moi, enseigne-moi une invocation avec laquelle je puisse invoquer Allah. Le prophète alayhi salam lui dit, dis, Allahumma ahdini, oh Allah guide-moi, wa saddidni, et rafferme-moi sur la rectitude, et donne-moi la rectitude sur le chemin, et rafferme-moi sur ce chemin. C'est pas simplement tu demandes Allahumma ahdini, non, tu demandes la guider, mais tu demandes le fait de rester sur cette guidée, et de perdurer sur cette guidée. فسورة الفاتحة دلت على أهمية الإلحاح في الدعاء من جهة أنها السبع المثاني، فهي تقرأ وجوبا في كل ركعة من الصلاة فرضا أو نفلا.
وهذا يؤكد أن الثبات على دين الله تبارك وتعالى من أعظم الوظائف المطلوبة في كل يوم وليلة.
C'est pour cela que, comme cette sourate s'appelle Es-Sab'ul Mathani, les sept répétées, car tu la répètes 17 fois par jour au minimum, et encore plus si tu t'accroches aux prières surrogatoires. Si tu la répètes sans cesse dans ta journée et dans ta nuit. Et c'est pour cela qu'il est très important, parce que dans cela on comprend quoi? On comprend que celui qui demande à Allah Azzawajal d'être guidé, il se doit de demander également à Allah Azzawajal de rester sur ce guide, sur cette guidée. Parce que quand tu réfléchis, qui dit Ihdina Siratal Mustaqim? C'est ceux qui prient. Ceux qui prient à ce moment-là, ils sont guidés vers le droit chemin. Pourquoi Allah Azzawajal nous ordonne de demander toujours la guidée? Parce que tu demandes le fait d'être enfermé sur cette guidée. Et là tu vois que combien de musulmans priaient et ont arrêté de prier. Combien de musulmans étaient avec nous dans la mosquée et tu les vois dans les rues qui approchent les alentours de la mosquée mais qui ne prient même plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la Sirat al-Mustaqim. Parce qu'ils n'ont pas compris la Sirat al-Mustaqim. Parce que celui qui comprend la Sirat al-Mustaqim, il va voir à quel point il a besoin dans sa vie d'Allah Azza wa Jal. Et à quel point il a besoin dans sa vie de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te guider. C'est pour cela que Surat al-Fatiha, elle nous indique quoi? Elle nous indique que la chose la plus importante dans ta journée, c'est de rechercher la guidance d'Allah. S'il te plaît, tu dis quelque chose plus dans ta journée, tu invoques plus Allah Azza wa Jal que le fait de dire Ihdina Sirat al-Mustaqim. ولهذا تكرر سؤال الله تبارك وتعالى الهداية في الصلاة وفي دعاء القنوت وفي الأدعية العامة. C'est pour cela que lorsque tu médites aux invocations du prophète عليه الصلاة والسلام, dans la Fatiha tu demandes la guidée, dans la prière tu demandes la guidée, Allahumma fir, entre les deux sujoud, Allahumma firni warhamni wa'afini wa'afini, également de Al-Qunut, tous les soirs dans la prière du Wild, le prophète s'est mis levé ses mains. Il disait quoi? Allahumma hdini fiman hadayt. Oh Allah Azza wa Jalla, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Également dans, lorsque tu médites sur toutes les invocations d'une manière générale, les invocations du prophète alayhi salam salam, il y a la demande de la guider. Fal muslimu la yazalu yahtaju an yuriha Allahi, an yuriha ala Allahi tabaraka wa ta'ala wa an yukarrir wa an يكرر الدعاء والسؤال والطلب منه جل وعلا ممتثلا قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وشرحنا بالامس ان التضرع هنا هو الالحاح, ان تدعو الله ولا تقنط من رحمته, وراجيا منه جل وعلا ان يعطيه ما سال او يصرف عنه من سوء مثله او من السوء مثله أو من السوء مثله أو يدخره له ثوابا عنده يوم القيامة. C'est pour cela et nous arrêtons sur cette troisième condition inshallah et on continue demain bi'idhnillah. On s'arrête sur cela en disant que le musulman a besoin et il a entièrement besoin de multiplier l'invocation à Allah Azza wa Jal de le guider. Et l'invocation d'une manière générale, lorsque tu as besoin d'une chose, lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, demande sans cesse et ne désespère pas. Demande. Car lorsque tu vas multiplier ta demande, lorsque tu vas multiplier ton invocation, il y aura une de ces trois choses. Soit Allah Azza wa Jal te répond et te donne ce que tu veux. Tu demandes quelque chose, Allah Azza wa Jal te le donne. Soit il te répond, mais ce que tu as demandé, ce n'était pas un bien pour toi. Donc il va t'écarter d'un mal que toi tu ne sauras pas. Et cela est une réponse. Ou soit, Allah tabaraka wa ta'ala va te garder cette adoration pour Yawm al-Qiyamah. Et tu seras récompensé pour cette invocation et pour cette multitude de demandes à Allah Azza wa Jalla. Yawm al-Qiyamah, tu seras récompensé. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour celui qui invoque abondamment, qui ne cesse d'invoquer. Et Inch'Allah, on continue demain, Inch'Allah, la quatrième, la cinquième, la sixième des conditions. Et, inshallah, on continuera de fadlillah et on est proche de terminer le livre. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.